Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
La culture, l'information.
Ça part ici.
Université de Sherbrooke.
C'est fac.
88.3.
Oui, bonjour, bonjour. On va marcher beaucoup là. Bon. Alors, c'est Claude Saint-Jean. Bienvenue à l'émission « À nous le futur ». J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de paix, mais on va introduire l'émission peut-être par la paix avec la nature, la paix avec la forêt, avec une entrevue avec M. Bertrand Shepper de l'IRIS, l'Institut de recherche et sur l'environnement, et sur les, en tout cas sur l'IRIS, d'informations sur la socio-économie. Fait que, on commence.
On commence.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
OK. Là, ça va mal, je vais aller chercher.
Ça va mal, je vais aller chercher.
Je vais aller chercher quelqu'un parce qu'on a de l'écho.
Juste une seconde, s'il vous plaît.
Oui, rebonjour, vous êtes
de... Oui, rebonjour, vous êtes de...
Retour à nos futurs. L'aide technique me dit que le problème, c'est le téléphone de l'invité. En tout cas, mais... On va comprendre pareil. Fait que M. Shepper, notre forêt va mal. C'est la presse qui nous disait ça. Du point de vue de l'IRIS, comment vous pouvez expliquer ça? Ça va?
Oui, bonjour.
Oui. Alors, bon, mais ça va bien, là. Il n'y a plus d'écho. Donc, tu sais, selon l'article de la presse, furieux mais encore optimiste, Richard Desjardins, qui a fait l'erreur boréale, le film, là, il y a 40 ans déjà, je crois. La forêt, ça va pas mieux qu'avant, même c'est pire. On coupe plus vite que la forêt se régénère. Et l'IRIS, je crois, peut donner des explications sur le plan de l'administration, pourquoi notre forêt va pas bien. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous pouvez nous dire pour nous éclairer?
Oui, ben en fait... Depuis plusieurs années, l'IRIS observe l'évolution là, dans, disons, le trésor public de l'industrie de la forêt. Et donc, nous, notre travail dans les dernières années, ça a été de regarder ce qu'il y en est. Et soyons clairs, nous ne disons pas qu'il faut arrêter d'aider la forêt, au contraire, mais il faut quand même réfléchir aux modalités et des manières dont on le fait. Donc, dans les dernières années, par exemple, ce qu'on dit, c'est quand on observe, par exemple, la part du PIB au Québec, bien, par exemple, par le passé, dans les années autour de dans les années 90, en 1997, par exemple, la part de l'industrie forestière dans le PIB était à peu près de 2,87 %. Okay. Aujourd'hui, elle est à peu près à 1,49 %, donc à peu près diminué de moitié. Donc, l'importance de la forêt dans l'économie a baissé par rapport au passé. Puis on a souvent cette impression-là que c'est un moteur fort, alors que nous, ce qu'on dit, c'est que ça reste une industrie qui est en déclin par les temps qui courent. Et donc, il faut repenser notre manière d'aider l'industrie forestière. Mm-hmm. Et si on voulait regarder un petit peu plus loin là-dessus, on peut regarder, par exemple, en nombre d'emplois. Dans les années 2000, là, on comptait qu'il y avait à peu près 95 200 emplois dans l'industrie de la foresterie, de forestière. Aujourd'hui, c'est 57 000 emplois. Donc, ça a presque diminué de moitié. Mm-hmm. Après ça, bon, il y a aussi beaucoup de travailleurs autonomes qui travaillent dans ces dossiers-là, mais il reste que, comme tel, les effets réels sur l'emploi sont marqués. Puis en fait, ce qui finit par arriver, c'est que nous, on se dit, il y a un enjeu important. C'est que d'un côté, on a une industrie qui est en déclin, mais de l'autre, il y a quand même beaucoup de municipalités puis de communautés qui dépendent de l'industrie forestière. Il ne faut pas les laisser tomber, ces communautés-là.
Oui.
Hein, par exemple, en fait, il y a un rapport du gouvernement qui était sorti, je pense, en 2019, si je ne me trompe pas, qui montrait que il y a à peu près 8,5 % des municipalités qui ont une dépendance légère, je dirais, à l'industrie forestière. Donc, ce que veut dire à peu près là, qu'il y a mettons, 5,5 % de tous les emplois de la municipalité sont dans cette industrie-là. Mais il y a aussi comme autour de 6 % des municipalités dont qui ont plus que 15 % de leurs emplois sont liés à l'industrie forestière. Fait qu'on peut pas, du jour au lendemain, dire on arrête d'aider cette industrie-là, puis c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, par contre, c'est ben, présentement, l'industrie est en déclin. Si on fait rien, ces municipalités-là vont avoir des enjeux majeurs économiques. Il faut le prévoir. Faut réfléchir à cette transition-là.
Okay.
Et pour nous, ça, c'est important. Puis plus loin, en termes juste, si on pense juste pour le Québec, bien, en fait, les enjeux, c'est que fiscalement, c'est de moins en moins intéressant de soutenir l'industrie forestière. Par exemple, lorsqu'on construit pour 1 million de production dans l'industrie forestière, par exemple, là, il est calculé là, que pour chaque million qu'on investit, on reçoit 21 000 $ en impôts. Mm-hmm. Par contre, on donne 76 000 $ en subvention. Donc, ça nous coûte plus cher en termes fiscal seulement. Puis après ça, ça crée des emplois, puis ça, puis faut pas enlever ça, mais ça nous crée c'est plus cher que ce que ça nous rapporte. Donc, comme tel, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un enjeu fiscal réel. Or, le problème, c'est que lorsqu'on essaie de travailler sur comment on peut, disons, re-réfléchir ce modèle-là, à chaque fois, il y a des enjeux majeurs qui nous disent ben, on ne veut pas changer le modèle ou ce modèle-là est attaqué de toutes parts. Puis c'est vrai, il est attaqué notamment par les tarifs avec les États-Unis, il a été attaqué par l'OMC, pas par l'OMC, mais encore une fois par les États-Unis à travers l'OMC, qui démontre que finalement, notre modèle n'est pas sur-subventionné par rapport à d'autres. Mm-hmm. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'il faut dire, et ce qu'on dit à l'IRIS, c'est qu'il faut revoir le modèle pour s'assurer que prendre acte que c'est une industrie en déclin. Mais ceci étant dit, soutenir les communautés qui dépendent de ces industries-là en cherchant d'autres modèles.
Okay.
Or, ce qu'on voit présentement, ce qui semble se faire, c'est qu'on veut couper plus et plus vite pour essayer de rentabiliser un modèle qui va déjà pas bien.
Oui, d'accord. Moi, dans mon imagination, en attendant qu'on se parle, je me disais mm-hmm. qu'on devrait arrêter de couper complètement, puis se servir de la forêt pour les loisirs puis pour la santé. Puis ce faisant, on économiserait comme 20 milliards en maladies. Je fabulais, mais en tout cas.
Ben, c'est-à-dire que diminuer les coupes peut être une option pour vrai, ou du moins sélectionner des coupes plus écologiques, plus logiques. Or, présentement, ce qui arrive, c'est qu'on sait ce qui se passe, c'est que les coupes se font de manière rapide, sans une sélection, et l'industrie aura beau dire le contraire, là, je veux dire, les images, les démonstrations semblent démontrer, il n'y a pas un travail de sélection qui est très fort.
Okay.
Après ça, ça coûterait plus cher exploiter la forêt si on faisait ça. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur comment on perçoit la forêt au Québec. Est-ce que ça peut devenir une industrie touristique de manière plus importante qu'elle l'est actuellement? Je pense que oui. Est-ce qu'il peut y avoir des manières de s'assurer que ce qu'on utilise comme travail en forêt ben, nous permet d'avoir, par exemple, des matériaux de construction plus écologiques si on le fait correctement? Certainement, mais tout ça implique, veut pas, des coûts plus élevés et peut-être même des enjeux sur des communautés qui vont perdre des emplois. Il faut que ça va arriver de toute manière. C'est déjà ce qui est en train d'arriver. Mm-hmm. Donc là, la question, c'est de savoir comment nous allons transitionner vers d'autres choses et peut-être que la forêt va courir. C'est sûr qu'il va toujours avoir une industrie forestière au Québec, je pense,
mm-hmm.
mais elle ne peut pas être comme dans l'imaginaire collectif qu'on a des années. Par exemple, les années 50-60, où c'était au cœur même de l'économie québécoise.
Oui. Et comme modèle alternatif, est-ce qu'il y a des pays duquel on peut s'inspirer?
Bien, c'est sûr que ce qui a frappé très fort l'industrie, c'est notamment la baisse de l'industrie de la pâte et papier, qui fait partie de l'industrie, la grande industrie forestière. Or, il y a beaucoup de pays qui ont su voir venir ça par le passé, qui ont modifié leur manière de faire. Mm-hmm. Une des choses que historiquement qu'on peut dire qui a été une erreur au Québec, c'est de toujours penser que comme on était une industrie qui avait beaucoup de pâte et papier, que ce modèle-là allait continuer. Or, quand il y a eu des enjeux, on a continué avec un ancien modèle, souvent avec des usines qui malheureusement étaient, je dirais, dépassées en termes de capacité et de manière de faire. Et là, ben, d'autres pays ont pris l'avant et notre industrie sert beaucoup plus aujourd'hui à faire des petits matériaux de construction et donc peut-être moins intéressants et moins payants. Donc, il y aurait peut-être comme manière alternative à ça, c'est de transformer. Puis je pense que c'est ce qui est souhaité actuellement, de transformer pour avoir une industrie qui va être plus être dans du bon du bois de bâtiment pour l'intérieur au Québec, il faudrait peut-être réfléchir au Québec et au Canada à améliorer notre capacité à, disons, changer le code du bâtiment pour intégrer le bois. C'est déjà ce qui est en train d'être fait, mais d'aller plus loin encore. D'accord. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas penser que l'industrie forestière va revenir à ses belles années comme c'était le cas, notamment à travers des exportations ou notamment à travers, par exemple, l'historique des pâtes et papier. Il va falloir penser à la forêt autrement et pas uniquement en, mettons, matière première.
Oui. Mais il y a aussi la question de l'eau. Hein. La forêt et l'eau, ça va assez bien ensemble. Puis je me souviens, moi, je viens de l'Abitibi. Je pense quand j'avais 12-13 ans, il y avait la maladie de Minamata au Québec. C'était comme au Japon, là, par la pollution de l'eau. Je crois que c'est par des forestières. Est-ce que l'IRIS fait des liens entre la pollution de l'eau puis couper la forêt ou quelque chose comme ça?
Nous, on ne sait pas tellement, on n'a pas tellement réfléchi à ces questions-là parce que, comme tel, à l'IRIS, on travaille les politiques publiques. Donc, tu sais, je vous admets franchement, beaucoup de mon travail, c'est de regarder des documents Excel. mais comme tel, ce qu'on peut voir quand même, puis si on va sur l'eau, ben, il y a des enjeux. C'est sûr que si on pollue l'eau, ça va avoir des enjeux sur la santé. Ces enjeux sur la santé ont des coûts au Québec sur notre régime de santé. Mm-hmm. Et comme tel, ça a un effet. Or, nous avons en partie la possibilité au Québec d'avoir... Il y a des redevances sur l'eau qui sont faites quand les compagnies exploitent l'eau. Or, je ne suis pas certain qu'actuellement les forestières participent à à ces redevances-là parce que l'eau n'est pas toujours directement reliée à l'ensemble de leur... En fait, ils doivent payer une partie, mais pas toute, à l'ensemble de leurs activités. Et de toute manière, ces redevances-là sont particulièrement faibles et ont rarement un effet qui vont permettre de, mettons, payer les enjeux qui pourraient être liés à la santé, liés à l'eau. Mais après ça dépend toujours comment c'est fait. Il faut quand même faire confiance, je pense, en partie aux forestiers aujourd'hui à ne pas contaminer des eaux qui sont proches de lieux habités.
Et vous, à l'IRIS, est-ce que vous avez d'autres avenues là, de recherche sur bien prendre soin de la forêt?
Bien, nous, encore une fois, notre travail est beaucoup plus basé sur comment nous allons, comment il faut réfléchir aux enjeux économiques autour de la forêt. Oui. Il y a eu plusieurs volontés et avenues. Certaines nous semblent mal avisées, notamment, par exemple, espérer que la forêt devienne une forme de carburant avec le bois et avec les. Et pour nous, avec la biothermie, ça nous semble être une manière de. Ils ont rasé les forêts ou en partie ce qu'il y en a pour essayer d'aller chercher de la biothermie, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça peut être intéressant, là, ce type d'énergie-là, lorsque, par exemple, vous l'utilisez à même vos activités dans une usine, par exemple, de fabrication de bois, utilisent leurs résidus pour se chauffer ou pour faire des séchages, ça peut être intéressant, ou dans la communauté proche, ça peut être intéressant, mais penser que ça va devenir un biocarburant, par exemple, je pense que c'est une erreur.
D'accord.
C'était une position qui était souvent amenée. Ceci étant dit, pour ce qui est des autres avenues pour la forêt, encore une fois, je pense que ce serait bien de pousser un peu plus le tourisme, mais on n'a pas non plus une solution miracle, malheureusement, parce que ce n'est pas un problème qui va se résoudre facilement.
OK. Bon, ben d'accord, Bertrand Chappert de l'IRIS, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite, ainsi qu'à nous, une forêt qui va nous aider à être plus heureux et plus économiquement portant, bien portant. Merci.
Ben, je vous remercie.
Bonne journée.
Bonne journée.
Vous êtes de retour à nous le futur avec Claude Saint-Georges. Je remercie beaucoup encore Bertrand Chappert de l'IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique, qui nous parlait de la forêt. C'était suite à un article dans la presse à propos de Richard Desjardins. Ça s'appelait « Furieux, mais encore optimiste ». Donc, c'est ça qui est ça. La forêt, c'est une bonne partie du Québec, de l'Abitibi, de la Côte-Nord. Puis, il faudrait en prendre soin. Et puis ici, à Sherbrooke, ça va assez bien. Là. Je vois le Mont-Bellevue très foresté. Là. J'espère qu'il va le rester encore. Et puis, je vais donner des nouvelles encore quelques minutes là, avant de se lancer dans le thème de la paix et que je ne réussirai pas à passer à travers aujourd'hui. Il va y avoir deux autres émissions sur la paix, probablement. Et ensuite, deux autres émissions sur les Premières Nations. Genre, trois émissions sur la réforme de la démocratie. Puis, ce sera le temps d'entamer le gâteau de Noël et tout ça. Puis en revenant en janvier, on va parler sûrement de terminer la réforme de la démocratie et d'autres nouvelles que je n'aurais pas eu le temps de vous donner. Exemple, aujourd'hui, c'est plus de 8 Québécois sur 10 veulent que les municipalités agissent pour le climat. Alors, les élections municipales viennent de terminer. On dit que 88% contre 73% des hommes croient qu'il est important que les municipalités agissent pour prévenir et s'adapter au changement climatique. Sherbrooke a commencé à faire quelque chose avec Sherbrooke citoyen. Puis j'espère qu'avec la nouvelle Mme Bibeault, ça va continuer un petit peu, au moins. Hein. Le regroupement Vire au vert a pour objectif de mettre en marche des enjeux environnementaux au cœur des élections au Québec et au Canada. C'est fait, c'est terminé. Les coûts de sonde commandés par l'agence Copticom indiquent également que les Québécois âgés de 55 ans et plus, 85 % sont plus nombreux que les jeunes de 18 à 34 ans à considérer la lutte au changement climatique comme un enjeu important aux élections municipales. L'article parle des 12 travaux. On dit qu'il faut une alimentation locale à soutenir. Je suis bien d'accord avec ça. Et l'Université Bishop donne un cours maintenant sur l'agriculture biologique. J'ai visité la ferme écologique il y a quelques temps, où j'en ai parlé. Et puis que le sondage dit aussi qu'il faut protéger les milieux naturels, la biodiversité, et c'est bien tant mieux. Alors, Vire au vert, bien, merci pour votre existence. Et puis, on va continuer à vous regarder. Climat, les engagements des États restent très insuffisants pour réfléchir le réchauffement. Nous disait le 4 novembre M. Guterres, puis il ajoutait qu'on s'en va vers un alignement catastrophique si on ne prend pas mieux soin de notre climat. Ben on va, oui, M. Guterres, on va le faire grâce à l'émission À nous le futur, j'espère que ça va changer. Et justement, ici, j'ai le Rocky Mountain Institute, duquel je reçois des bulletins d'information assez souvent, puis je vous encourage à vous abonner. J'ai un document de 30 pages ici, c'est Power Shift, A Secure, Prosperous, Clean Energy Future for All. Bon, je vous ai déjà dit que j'ai interviewé Amory Lovins pour la revue Contretemps à Montréal il y a une couple de décennies. Cette revue-là n'existe plus. Et puis, c'était Amory Lovins qu'on dit être le grand-père de l'efficacité énergétique. Que j'ai eu le prix Nobel alternatif de la paix. Et puis, il me disait que nous nous comportons envers l'énergie comme si on sciait un gâteau de fête là, avec une scie à chaîne. Alors, c'est un peu illogique. Puis, c'est ça, il est venu à Montréal nous parler des lampes qui économisent l'énergie. Puis, aujourd'hui, il dit que la plus grande source d'énergie, c'est l'économie d'énergie. Bon, bien, trêve de sérieux. J'aimerais ça vous faire une blague, une couple de blagues que j'ai trouvé dans mes documents au cours de mes recherches cette semaine. L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que cela le fatigue. La paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin pour avoir plus de longtemps à ne rien faire. Et on dit aussi que j'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire qu'il ne m'en reste pas assez pour travailler. De plus, dans mes nouvelles de la revue française Internet « La relève et la peste », j'ai un petit document intéressant, c'est « Les bourdons sont les premiers insectes connus à jouer par plaisir ». Une étude anglo-finlandaise montre que les bourdons, bombus terrestri, jouent en faisant rouler des balles, et ce même s'ils n'ont pas de récompense à clé. Cette découverte remet en question la croyance selon laquelle le jeu serait réservé aux mammifères et aux oiseaux. De la savane africaine au fond marin, les scientifiques ont documenté de nombreuses scènes de jeux animaux. Comme les lionceaux, par exemple, s'entraînent à la chasse. Et on a vu ici des ours polaires, là, qui est une maman polaire qui donne naissance à son petit, puis son petit va téter, mais bien sûr, il monte sur elle, puis met sa patte sur ses oreilles. Elle, ça ne la dérange pas, mais imaginez-vous, si moi, je mettais ma main sur l'oreille de l'ours polaire, je ne crois pas que je resterais longtemps en vie. Alors, ces comportements vitaux sont vitaux pour l'apprentissage des compétences nécessaires à la survie. C'est-à-dire jouer, tu sais, pour l'acquisition des codes sociaux. L'équipe de chercheurs dirigée par Lars Chitka a auparavant appris aux bourdons à faire rouler des boules en échange de récompenses sucrées. Fait que certains insatiables sont revenus plusieurs fois, c'est des bourdons, là, pour jouer, pour jouer plus souvent. Le record revient à un individu qui a fréquenté des aires de jeu 117 fois de manière totalement désintéressée. Le jeune et les mâles étaient plus enclins à s'adonner aux activités ludiques. Alors, c'est ça. Allez voir La relève et la peste, ça vous parle des jeux, des bourdons et des insectes. Et puis, je recevais cette semaine également Slow Food. Hein? C'est une organisation française qui a le don de s'appeler Slow Food. C'est la nourriture lente, là. Puis, il nous dit que pour la COP 30, la COP qui s'intéresse au changement climatique qui a lieu maintenant, c'est du 10 au 21 novembre, il n'y a pas de justice climatique sans justice alimentaire. Alors, allez voir le bulletin d'information de Slow Food qui vous dit ça en détail, là, qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice alimentaire. Donc, le climat, l'alimentation, c'est relié ensemble. Et justement, l'Université Bishop donne un cours. C'est changement climatique et alimentation biologique. Tu sais, je veux dire alimentation, pas ça, mais agriculture biologique. Et également, le président de Slow Food nous dit que les communautés puis les frontières écologiques sont en train de s'effondrer parce qu'on prend pas assez bien soin de l'écologie puis de la nourriture. Slow Food nous dit également que des rizières aux forêts tropicales, Terra Madre, ça c'est une sorte de réunion de Slow Food, là, en Asie et en Pacifique, unit les leaders alimentaires pour un avenir durable. Fait que je vous suggère vraiment de vous procurer le bulletin d'information de Slow Food. C'est gratuit d'Internet. Puis il y en a un qui est en anglais également. Saviez-vous que ça a de l'allure de parler de l'alimentation durable ces temps-ci? Parce que vous savez que 42 millions d'Américains ont faim. Pendant qu'il y a un certain monsieur qui veut ramener la « Great America », il laisse mourir de faim 42 millions de personnes dans son pays. Alors, c'est pas intéressant. Cependant, le mouvement végétal a encore du souffle, nous dit Le Devoir, sous la plume de Anne-Marie Roy et Martin Quirion. Puis Mme Pelletier aussi, là. Ce que nous observons, c'est donc un mouvement végétal qui ne s'essouffle pas, mais qui mûrit, s'enracine et se diversifie dans une société plus consciente de ses choix. En dépit des défis d'un changement de paradigme alimentaire, le message scientifique fait son chemin dans l'esprit collectif. Deux points. Réduire la viande au profit d'aliments végétaux, légumineuses, grains entiers, noix et graines, fruits et légumes, ça demeure un choix gagnant pour la santé et pour la planète. Et d'ailleurs, lors de ma visite sur la ferme de Bishop, une ferme de 140 acres, et entre parenthèses, ce 140 acres-là, ça a été donné par quelqu'un à l'Université Bishop. La gentille personne qui m'a fait visiter m'a dit qu'il y a une céréale. Tu sais, une céréale, c'est un grain, là, c'est comme du blé, par exemple, ou de l'orge. Mais il y en a une sur laquelle, à propos de laquelle ils font de la recherche. C'est une céréale qui fournit des protéines. Donc, théoriquement, quelqu'un ne pourrait manger que cela et bien vivre. Bon, c'est sûr que dans la vie, il y a le plaisir aussi alimentaire. Mais pour survivre, la céréale dont j'ai oublié le nom, mais vous allez voir ça sur Université Bishop, cours d'agriculture biologique, c'est très clair, là. Le nom de cette céréale-là. Bon. Et puis, j'ai appris que le projet Bio Locaux des Cantons, ça revient pour une quatrième saison. Ça regroupe 17 fermes estriennes qui s'unissent à l'automne et l'hiver pour offrir des paniers de légumes. Je pense que vous pouvez aller voir Bio Locaux des Cantons dans Internet, mais que le magasin Silo en a, peut-être la coop alentour aussi. Et puis, à Montréal, savez-vous qu'il y a jusqu'à 17 millions de repas supplémentaires en luttant contre le gaspillage des commerces à Montréal? C'est vraiment intéressant, ça. C'est un article du 28 octobre 2025. On dit que, justement, tu sais, pour éviter le gaspillage alimentaire, ben, on essaie de récupérer. Puis on réussit à faire 17 millions de repas à Montréal là-dessus. Alors, c'est bien le fun. Fait qu'on parle de la paix, mais avant de parler de la paix, je vais encore dire d'autres choses pour nous introduire, là. Je vais vous parler du livre « Alternatives d'ici et d'ailleurs ». C'est aux éditions du Fleuve, 1984 à peu près. Ça se trouve pas à la bibliothèque de Sherbrooke, là, mais c'est à la bibliothèque du Québec, là, à Montréal. Là. Alors, là-dedans, on dit que, évidemment, le document à la croisée des chemins, là, qui est à la page... Bon, en tout cas, c'est facilement trouvable, mais on parlait de les limites de l'écologie, les limites physiques et écologiques, là, c'est en 1984 de ça qu'on parlait de ça. Et puis, on disait aussi que il y avait des dangers de guerre nucléaire et tout ça, et qu'il fallait aussi réparer le fossé entre riches et pauvres. Et la question des limites de la planète, bien, ça nous conduit à l'écologie, dont on parle assez souvent et dont on va continuer à parler. Et puis, la question du danger nucléaire, ça nous conduit à parler de la paix aujourd'hui. Et pour ça, bien, je commence par le Journal de Montréal, qui nous disait hier que c'est un gros budget de guerre qu'on a. C'est le plus gros depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les véhicules blindés, les jeeps tactiques, les sous-marins, le système de frappe à longue portée, hausse des salaires dans l'armée et la cyberdéfense. Fait que ceci pour vous dire que finalement, le Québec aux Québécois pacifiques, ça prend du recul. J'ai vu de Laurent Duvernay-Tardif, l'ancien joueur de football, il disait que son affaire au football, c'était essayer d'arrêter un athlète plus fort que lui en courant de reculons. Fait que là, c'est ce qu'on fait nous autres, le Québec, on court de reculons. On passe d'être assez pacifique à être guerroyer, comme le Canada, là. Puis bon, c'est sûr qu'on n'est pas sans péché à l'Université de Sherbrooke. On a déjà accueilli, et on le fait encore, de la recherche en matière de défense. On a déjà accueilli des subventions de Total, cette grande pétrolière qui est reliée aux armements. Et j'espère que j'endors pas trop, là. Je me sens pas trop... comme un clown très vivant, là. En tout cas, fait que difficile d'être très joyeux avec le thème de la paix, mais je vais vous parler tout à l'heure de Willis Harman. Mais Willis Harman, il dit des choses intéressantes. Tu sais, quand on parle de la non-paix, qu'est-ce que la non-paix? Bien, c'est la menace constante du déclenchement d'un conflit nucléaire avec ses pertes de vie massives et son cortège de désolation, dont l'hiver nucléaire. C'est deuxièmement des guerres locales persistantes, utilisant les armes conventionnelles et laissant dans leur sillage un flot de misère humaine. Il y en a combien actuellement? Au moins 8, là. Une course aux armements universels qui entraîne des dépenses dépassant le milliard de dollars par jour. Ça, c'est plus vrai, là. C'est à peu près 2-3 milliards par jour, là. Et des pays parmi les plus pauvres qui dépensent plus en préparatifs militaires que pour les soins de santé, incluant le Québec. Une pauvreté galopante accompagnée de maladies, de malnutrition, de famine et tout ce stress causé à l'environnement, par l'élevage à outrance, le déboisement, l'érosion du sol et la pollution systématique. La dégradation de l'environnement et l'exploitation des ressources rattachées aux activités économiques des pays industrialisés. Ça, c'est une autre cause, c'est un autre aspect de la non-paix. Et finalement, c'est des tensions grandissantes entre l'hémisphère nord, industrialisé et ce grand consommateur qu'il est, ainsi que l'hémisphère sud, accablé par la pauvreté. Maintenant, nous devons changer de paradigme, n'est-ce pas? Vous avez Marlene Ferguson, elle a écrit « Les enfants du Verseau vers un nouveau paradigme ». Elle a écrit ça quand? 1981. Alors finalement, je veux vous dire que les grosses nouvelles intéressantes pour la transformation positive du monde, là, ça vient des années 80 jusqu'à 2000. Là. C'est des penseurs et des penseurs, des chercheurs de ce temps-là, comme Marlene Ferguson, Buckminster Fuller, encore lui. Et puis, vous avez de 80 à 2020, là, une autre génération qui a apporté des nouvelles intéressantes, c'est par exemple la théorie du donut, ou en d'autres mots, la théorie du beigne. La théorie du donut, ça consistait à dire, vous imaginez un beigne et vous le coupez en deux. Puis quand vous le coupez en deux, vous avez la partie du milieu qui, l'autrice, Kate Raworth, appelle ça une zone juste et sûre pour l'humanité. à la condition que la partie du haut, qui est le plafond écologique, constitué de 9 limites à ne pas dépasser, s'il vous plaît. Et il y en a 7 de dépasser. C'est triste. Et puis, on va essayer de surprendre. Par ailleurs, la partie du bas du bain, c'est le plancher social, constitué de 12 besoins. Et pour Mme Rawert, un des besoins, c'est la paix. Et c'est ce dont on commence à parler aujourd'hui. Mais avec sa génération, il y a aussi un autre économiste, parce qu'elle était économiste, elle l'est encore, c'est Éloi Laurent. Et vous avez ici un animateur d'une émission, Hotman, je ne me souviens plus de son nom de famille. Je lui ai parlé de ce livre-là de Éloi Laurent. Il est économiste, lui, puis j'ai appris qu'il a 2 doctorats, puis il fait sa maîtrise en plus. Et Hotman adore Éloi Laurent, là, il se trouve très intéressant. Donc Éloi Laurent, dans son livre « Et si la santé guidait le monde », parle de la boucle sociale écologique. Ça, je vais vous en parler demain, si vous venez ici à l'université là, à 9h, là, je vais faire une émission là-dessus. Là. Pour vous inspirer de mes inspirations pour faire cette émission « À nous le futur ». Puis dans une deuxième partie, demain, je vais interviewer des gens locaux qui, j'appelle ça, opèrent pour essayer de réaliser, tu sais, un beau présent et par conséquent un beau futur. Et puis, bon, bien là, je passe à un beau document de la Ligue des droits et libertés qui s'appelle « L'environnement, un jeu de droits humains ». C'est en mars 2014 que ça a été écrit, mais c'est tout à fait pertinent aujourd'hui même. Et je sais que l'ancien président de la Ligue des droits et libertés était Julio Rodriguez, qui était le directeur en même temps du département de services sociaux, que j'ai connu puisque je suis un ancien étudiant en service social. Fait qu'eux autres voient la protection de l'environnement comme une condition de réalisation des droits humains. Alors, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez sûrement trouver ça dans Internet. L'environnement, un enjeu de droits humains. Et puis, ça va faire le soliloquage pour l'instant. Je reviens à la musique. À tantôt, c'est Claude. Les vraies affaires, c'est à nous le futur, puis c'est à vous le futur. Puis aussi, c'est un beau futur, s'il vous plaît. Hein? C'est pas un futur de marde, disons. Autrement dit, c'est pas une dystopie qu'on veut, là. C'est une utopie réalisable. Fait que c'est ce qui se passe ici à CFAQ, que je vais vous parler d'une utopie réalisable. C'est en plein ça qui se passe. Fait que pour continuer à en parler, je vais vous dire que tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé du document à la croisée des chemins, moi, je l'ai traduit, cette affaire-là, mais je me suis aidé de quelqu'un d'expert en traduction pour me corriger, là. Et je l'ai signé, ce document-là, comme 2000 autres personnes. S'ils ont accepté ma signature, c'est que j'avais fait une expérience comme cuisinier. Il n'avait aucun cuisinier, il voulait le plus grand spectre de responsabilité ou d'expérience ou d'idéologie possible. Là. Fait que moi, j'étais cuisinier, puis bon, voilà. Et il y a d'autres personnes, exemple, Fridtjof Capra, qui ont signé, c'est un physicien, qui à l'époque était assez jeune, mais qui aujourd'hui a 85 ans, mais qui donne encore un cours d'éco-littératie que moi, je suis en train de suivre. C'est un cours en 12 semaines, là, 12 chapitres, sur qu'est-ce que l'éco-littératie. Et selon lui, pour survivre, l'humanité a besoin d'augmenter ses connaissances, son alphabétisation en littératie écologique. Et puis, Willis Harman est un des signataires aussi. Lui, c'était un ingénieur électronique, je crois. Il a été président de l'Institut des sciences noétiques. Bon, la semaine passée, je vous ai parlé de l'astronaute Edgar Mitchell, qui a vécu une expérience extrêmement d'émerveillement devant le cosmos, là, lorsqu'il le regardait par son hublot, puis il a marché sur la Lune aussi. Puis il voyait la Terre de loin, puis il a eu vraiment une sorte d'extase, là. Puis de sorte qu'en revenant sur Terre, il a parti un institut pour étudier scientifiquement la conscience. Or, Willis Harman a été président de cet institut-là, et je vais vous dire un peu plus tard ce que c'est, plus précisément. Alors, Willis Harman, dans son livre « Higher Creativity »,« Breaking des limites de l'unconscious », ce livre-là a été traduit, puis il n'est pas ici, il est à la bibliothèque, j'ai oublié son nom, mais tu sais, la bibliothèque du Québec, là, à Montréal. Là. Ça s'appelle « Créativité transcendante ». Alors là, ça, vous avez tout ça en français, mais ce qu'il dit, Willis Harman, c'est que le summum de la créativité, c'est de créer la paix. Fait que c'est pourquoi il l'a fait comme une sorte de slogan, un mantra, là. La paix globale est possible et rien de moins intolérable. Alors, il disait ça presque poétiquement, mais il le prouvait scientifiquement également. Alors, donc, pour arriver à la paix, du point de vue psychologique, il avait d'autres, disons, d'autres mantras, là. Je ne suis pas séparé. Je peux faire confiance à moi, à l'univers, aux autres. Je suis responsable. Mon esprit est un, unique et unifié. Alors ça, c'est pour contrer, on va dire, la sorte de mentalité locale et mondiale là, que on est séparé. On est séparé des autres. Notre esprit, si on a de l'inconscient, du conscient, nanana. Mais c'est un esprit unifié qu'on a. Et puis, on peut se faire confiance à soi-même, et puis on peut faire confiance aux autres, on peut faire confiance à l'univers. Alors, bon, OK. Puis, si on veut créer la paix, on a quatre chemins à suivre. Premièrement, c'est dire non à la guerre, très clairement. Deuxièmement, c'est dire oui à la paix et à la transformation, c'est-à-dire qu'il faut transformer la société. Parce que mine de rien, tu sais, comme je vous ai déjà dit, aux États-Unis, 51% de l'économie est militaire. Fait que si tu veux transformer quelque chose, tu peux commencer par là, puis ça a des implications avec nous, là. On est relié à eux industriellement. Fait que donc, dire non à la guerre, dire oui à la transformation, faire son travail intérieur et faire son travail extérieur. Alors, faire son travail intérieur, Willis Harman veut dire changer ses croyances. Une des croyances, c'est la guerre, on a toujours connu ça, puis on connaît ça toujours. C'est une fausse croyance. Lui, il dit le contraire, là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la paix globale est possible, il n'y a rien de moins intolérable. C'est la croyance nouvelle qu'il faut intégrer, faire croire à nos gènes que c'est vrai. Et puis, finalement, tu sais, là, je reviens encore, dire non à la guerre, dire oui à la transformation, faire son travail intérieur et, en dernier lieu, faire son travail extérieur. Demain, à 10 heures, je fais une émission et je vais interviewer des gens, entre 5 et 10 personnes, là, j'entends encore des nouvelles, des gens qui s'impliquent localement, qui font un travail extérieur pour essayer d'améliorer soit éliminer la pauvreté, soit l'environnement, soit des liens avec les nouvelles générations, pour prendre nos responsabilités par rapport au changement climatique. Et puis, il va y avoir quelqu'un de s'entraide aussi, comment faire de l'entraide et pourquoi. Bon, alors, OK. Fait que pour continuer à vous parler de Willis Harman, je passe de son livre qui s'appelle « Higher Creativity » à un autre livre qui, lui, heureusement, il est traduit. C'était « Global Mind Change ». Ça, c'était écrit vers la fin des années 80, là. Fait que ceux qui sont nés en l'an 2000, mais ils ont 25 ans, c'est ceux qui sont assez mûrs, mais ils apprennent encore. Fait que quand ils auront 50 ans, mais ce sera eux là, qui écriront des livres dont les jeunes de 2080 s'inspireront, tu sais. Fait que là, pour l'instant, je m'inspire de Willis Harman, 1985 à peu près, là, une nouvelle vision de la conscience transforme le monde. Alors, je vous lis quelques extraits. C'est l'introduction à ce livre-là. Là. Quelqu'un dit que Willis a aussi insisté pour que je rencontre en Californie Paul H. Ray, qui a écrit avec son épouse Sherry Anderson un livre sur les créateurs de culture. Selon lui, il y aurait 50 millions de mutants aux États-Unis et environ 100 millions en Europe. Ces mutants qu'il appelle des créateurs de culture. J'avais un synonyme, c'était créatif culturel, là. Change de valeur en silence. Ils redécouvrent leur responsabilité collective vis-à-vis des problèmes environnementaux et de justice sociale. Ils attachent beaucoup de prix aux liens familiaux et de quartier. Ils souhaitent rencontrer des autres cultures. Ils découvrent également l'importance d'une croissance intérieure. Et dans ce groupe, 66% sont des femmes, ce qui veut dire que les femmes mènent le changement mondial en silence. Puis ce qui est assez bizarre là-dedans, c'est que bien qu'ils soient des millions, tu sais, 150 millions, on va dire, au minimum, là, tout le monde se pense seul parce qu'ils ne sont pas tellement reliés entre eux. Alors, l'auteur qui introduit ce livre-là dit que Willis Harman nous montre avec éloquence comment le paradigme industriel, précisément parce qu'il a exceptionnellement bien réussi, est en même temps, en vertu de sa logique matérialiste et centrée sur la machine, incapable d'imaginer un monde soutenable. Cette logique industrielle est donc en train de perdre sa légitimité à toute vitesse au sein d'une partie croissante de l'opinion publique. Le travail de Willis servira de moins en moins... Le travail, virgule, servira de moins en moins à fabriquer des objets puisque les machines le font de mieux en mieux. Les machines, on pourrait dire l'intelligence artificielle, ce dont parle des dizaines de chroniqueuses avant moi, là. Et il deviendra, comme chez les Grecs anciens, une possibilité de développer ses potentialités, même spirituelles, tout au long de la vie. Nous irions donc vers une société apprenante, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire une vie qui deviendra un art. Et cette société apprenante-là, ça s'inspire de la Grèce, la Paideia. Il termine en disant que la force de ce livre s'appelle « Une nouvelle vision de la conscience transforme le monde » de Willis Harman, réside précisément dans la profondeur et la clarté de la vision du changement de paradigme et qui est en cours. Et il nous invite à forger en nous-mêmes des scénarios positifs du futur, car, nous dit Willis, ces scénarios positifs poussent l'humanité dans la bonne direction. Alors ça me fait plaisir, parce que j'essaie avec vous de communiquer des scénarios positifs du futur, et de ce fait-là, je me sens pertinent. Donc, en 1977, sur l'invitation de l'astronaute Edgar Mitchell et du conseil d'administration de l'Institut des sciences noétiques, j'ai accepté, dit Willis Harman, l'auteur, de me joindre à eux pour développer la connaissance de la nature et des potentialités de l'esprit. Et je veux utiliser ces connaissances et ce savoir afin d'œuvrer à l'avancement de la santé et du bien-être de l'humanité et de la planète. Le mot noétique, qui vient du grec ancien « noesis », signifie « esprit, intelligence ou chemin de la connaissance ». Il recouvre les trois façons d'atteindre la connaissance, que sont le raisonnement de l'intellect, la perception de nos expériences par les sens et l'accès à la connaissance de manière intuitive, spirituelle ou intérieure. Il y aura une entrevue dans quelques semaines avec une dame qui a fait de la communication avec un ours polaire. Elle a écrit un petit livre à ce propos-là, puis je vais l'interviewer. Et puis, c'est une anglophone qui vient ici, là, puis elle apprend le français, elle a un peu de difficultés. Fait que dans quelques semaines, elle sera plus à l'aise, m'a-t-elle dit, puis on verra une entrevue. Donc, Willis Harman, il dit que nous avons décidé de travailler ensemble en lançant l'Institut du Congrès pour l'avenir, Congressional Institute for the Future. Nous avons d'ailleurs siégé au premier conseil d'administration de cet organisme aux côtés d'Elise Boulding. Je vous ai parlé d'Elise Boulding déjà, c'est une dame qui a fait des ateliers sur la paix, sur imaginer un monde en paix. Très difficile là, d'imaginer quand on n'est pas habitué, quand on est depuis des millions de générations à se faire dire que la paix c'est obligatoire, la guerre est obligatoire. Fait que le nouveau plan central de la société, dit ce livre-là, c'est l'éducation, la Paideia, au lieu de la guerre. Et puis qu'il faut redéfinir le développement global. Par exemple, il faut penser à un nouvel ordre économique mondial là, qui comprendrait la satisfaction des besoins humains fondamentaux, comme par exemple suffisamment de nourriture, d'abri, de soins de santé, d'éducation, d'emploi, de sécurité pour chaque personne. Deuxièmement, le sentiment de dignité de l'être humain, le sentiment et le sens du devenir, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à une vie meilleure, et le sens de la justice et de l'équité. Également, ça prend un sentiment d'accomplissement ou le sentiment d'être impliqué dans une activité qui mérite d'être accomplie, puis un sentiment de solidarité, c'est-à-dire d'appartenance à un groupe de qualité de participation aux décisions qui affectent son destin personnel et celui du groupe. Ce qui est très important, là, il me reste 4 minutes à peu près, il faut être en quête d'une sécurité globale. Il faut enlever, et surtout, j'insiste là-dessus, là, enlever toute légitimité à la guerre. En cet âge nucléaire, nous sommes tous virtuellement favorables à la paix. Cependant, nous n'avons pas tous la même compréhension de ce mot. Certains associent la paix à la sécurité nationale. Fait que, tu sais, une guerre nucléaire peut nous tuer tout le monde. Le principal obstacle à la délégitimisation de la guerre, c'est, ça résulte de l'incapacité de croire à la possibilité d'une paix durable. C'est simple, hein? C'est facile. Hein? Il faut juste croire à la possibilité de la paix durable, puis il faut passer par là pour délégitimer la guerre. Fait que j'espère qu'on va réussir avec Willis Harman, et je vous encourage à lire le livre Une nouvelle vision, parce que j'ai une feuille qui me cache ça, Une nouvelle vision de la conscience transforme le monde. Dans Internet, moi j'ai trouvé des documents, c'est Noétique 101, sur The Science and Experience of Interconnection. On dit, is there life after death? Est-ce que les phénomènes psychiques sont réels? Si vous allez voir l'Institute of Noetic Sciences, vous allez voir tout ça. C'est super intéressant. Et puis, bon, ben, on est dans la paix. Fait que Raoul Duguay a écrit un poème, ça s'appelle Bombe de paix. Je vous lis une première strophe. Depuis que le monde est monde, ne nous reste-t-il plus qu'un rêve? Rêver de la paix dans le monde avant que le monde ne s'achève. Et si le monde est un rêve, pour quelle réalité sommes-nous nés? Depuis que le monde est monde, c'est quoi la vie avant la mort? Pourquoi rêver qu'après la mort, la paix illumine le monde? Même du temps qu'on le croyait plate avant Platon, avant Platon, avant Socrate, et depuis qu'on la voit bien ronde, depuis la lune au miel inconnu, la Terre n'a pas connu plus de 100 jours suivis de paix, sans qu'un éclat, une guerre qui fait de l'homme la bête la plus immorale. Alors, ça continue comme ça, mais je ne peux pas continuer, moi, indéfiniment. Fait que c'est Raoul Duguay. Puis, j'ai ici un texte de « Échec à la guerre ». Ça, c'est une autre infolettre. Vous pouvez vous abonner à ça. Les autres, ils disent non à l'augmentation des dépenses militaires du Canada. Bon, c'est ça, tu sais. Allez lire ça. C'est le collectif « Échec à la guerre ». Puis, il y a un article... C'est la hausse des dépenses militaires, c'est un cul-de-sac économique et environnemental. Je pense que je vais vous lire ça la semaine prochaine. Oui, c'est ça que je vais faire. Fait que, je vous répète, là, abonnez-vous à Échec à la guerre, c'est l'infolettre disponible. Et puis, bien, le manifeste des artistes pour la paix, ça existe. Ça s'appelle « Pour la paix, brisons le silence ». C'est André Jacob avec la participation de Paul Chamberlain, Michel Thibault et Raoul Duguay qui ont publié ça. Je vous lis encore un petit peu de strophes poétiques. Bâtir la paix signifie communiquer. Bâtir la paix s'inscrit comme un mot sacré dans la bouche des enfants, des mères et des pères, partout toujours. Le monde a besoin de paix. La paix a besoin du monde. À nous de la faire vivre. Répétons en cœur, soyons audacieux, écrivons la paix, disons la paix, chantons la paix, dansons la paix, bâtissons la paix, peignons la paix, il reste beaucoup à faire. Ainsi, Picasso a imaginé la paix comme une œuvre en devenir. C'est tout, OK? C'est Claude à nous le futur, ça passe vite. Et puis à demain à 9h, sur place à CFAQ, sinon à la semaine prochaine, jeudi à 11h. Ça me fait plaisir et on reparlera encore de paix. Salut!